Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition les 17h30, temps universel de ce 3 juin 2019. John Lyndon et Eric Manirakiza à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition.
Au Niger, les autorités ont déjoué des attentats suicides la nuit dernière à Diffa, ville frontalière du Nigeria.
Nigeria, justement, série d'attaques de Boko Haram contre l'armée dans le nord-est.
Au Soudan, la dispersion du sit-in des manifestants à Khartoum fait au moins 13 morts.
L'ex-chef de guerre et opposant congolais Jean-Pierre Bemba annonce son retour en RDC pour le 23 juin.
Accueil en grande pompe du président Donald Trump à Buckingham Palace, au premier jour de sa visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni.
Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
Au Soudan, la situation s'est détériorée ce lundi avec la dispersion du sit-in des manifestants à Khartoum. Au moins 13 personnes ont été tuées, selon un comité de médecins, n'est-ce pas, Abdourahmane Dia?
Il n'y a plus rien à part les corps des martyrs que nous ne pouvons pas sortir, a indiqué l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Le lieu du sit-in est resté inaccessible. L'ALC a annoncé l'arrêt de tout contact politique avec le conseil militaire. Elle a appelé à la grève et la désobéissance civile à compter d'aujourd'hui dans le but de renverser le régime. Le comité central des médecins, proche de la contestation, a fait état d'au moins 13 morts et plus de 116 blessés. Le conseil militaire de transition a démenti toute dispersion par la force du sit-in. Si une opération de sécurité a eu lieu, elle a visé un secteur dangereux proche de ce site faisant face au quartier général de l'armée et occupé depuis près de 2 mois, a-t-il déclaré. Des tirs ont été entendus tôt ce matin. Un important dispositif de sécurité a été noté dans la capitale. Les manifestants, qui réclament depuis des semaines un transfert du pouvoir aux civils, ont mis le feu à des pneus et érigé des barricades sur des routes menant au lieu du sit-in et sur d'autres axes de la capitale.
L'opposant Jean-Pierre Bemba annonce son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin. Il ne précise pas le rôle qu'il entend jouer face au président Félix Tshisekedi, qui doit désigner un gouvernement. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Mes chers compatriotes, c'est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa le dimanche 23 juin 2019 à 10h. J'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité de vue et d'action pour un Congo prospère, écrit l'opposant sur son compte Twitter. Le 1er août 2018, Jean-Pierre Bemba avait fait un premier retour triomphal à Kinshasa après plus de 11 ans d'absence, dont 10 en prison à la CPI aux Pays-Bas. Jean-Pierre Bemba avait déposé sa candidature à l'élection présidentielle, elle a été rejetée à cause d'une condamnation pour subornation de témoins devant la CPI. Il avait alors soutenu le candidat d'opposition Martin Fayoulou qui conteste la victoire de Félix Tshisekedi et revendique la vérité des urnes. L'annonce de son retour intervient après celui de Moïse Katumbi, autre membre de la coalition Lamuka qui dit maintenant vouloir incarner une opposition républicaine et exigeante face au président Tshisekedi.
Et à 3 semaines de la présidentielle en Mauritanie, Amnesty International et une trentaine d'ONG ont appelé les 6 candidats à signer un manifeste prenant 12 engagements en faveur des droits des humains et notamment de combattre l'esclavage et les violences faites aux femmes. Ce scrutin doit marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu. Nouakchott a connu de nombreux coups d'État de 1978 à 2008.
Au Niger, 4 kamikazes du groupe Boko Haram ont été abattus la nuit dernière à Diffa, dans l'extrême sud-est du pays. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les 4 kamikazes ont tenté de se faire exploser près d'un important dépôt d'hydrocarbures. Les forces de défense et de sécurité les ont abattus à Diffaville, à côté de la SONIDEP, la société nigérienne des dépôts pétroliers. C'est le 2e attentat suicide déjoué en quelques heures dans cette ville proche de la frontière avec le Nigeria. 2 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à mener une attaque. Vraisemblablement contre une église et des ceintures d'explosifs ont été saisies à leur domicile. Mi-avril, la ville a déjà été frappée par une attaque d'envergure des djihadistes contre la caserne centrale de la gendarmerie et des habitations. Le bilan officiel n'a jamais été communiqué. Écoles et marchés ont alors été fermés plusieurs jours pour prévenir d'autres attaques.
Et Boko Haram a multiplié ces derniers jours les attaques contre des bases militaires dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont attaqué 4 bases entre vendredi et dimanche. Et dimanche justement, les membres présumés de Boko Haram ont échoué à s'emparer d'un camp dans la ville de Dikwa. Les combats ont contraint les habitants à fuir dimanche à Maïdougouri.
Et en Côte d'Ivoire, le bilan des violents affrontements de Béoumi entre Malinké et Baoulé à l'ouest de Bouaké en mai est passé de 11 à 14 morts. Le procureur de la République de Bouaké, Brahmam Kone, a aussi précisé que le nombre des interpellations passe, lui, à 22, dont le chargé de communication de la mairie, Conan Saint-Rodolphe. Saint-Rodolphe, donc, leader d'opinion, bien connu à Béoumi, qui a joué un rôle déterminant dans cette crise.
Les donateurs internationaux se sont engagés à verser 1,2 milliard de dollars pour aider le Mozambique à se remettre des ravages causés par les cyclones Idai et Kenneth. Pour les Nations Unies, 3,2 milliards de dollars sont nécessaires au total. Et plus de 2 millions de personnes ont été affectées et environ 650 sont mortes.
Afrique du Sud, un ancien policier sous l'apartheid accusé d'un meurtre commis en 1971 sera jugé. Il est accusé d'avoir tué un militant sud-africain il y a 48 ans. La haute cour de Johannesburg a estimé qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant un abandon des poursuites contre João Rodrigues, 80 ans, qui faisait partie des tristement célèbres services de sécurité.
Arrestation de 3 personnes au Maroc, soupçonnées de préparer des attaques terroristes depuis début mai. Il se tient un procès des assassins présumés de 2 jeunes touristes scandinaves dans le sud du Maroc, décapités mi-décembre au nom de l'État islamique. 24 prévenus sont jugés devant le tribunal de Salé près de Rabat. En 2003, des attaques à Casablanca ont fait 33 morts et 17 morts en 2011 à Marrakech.
Et puis 2 avocats ont demandé à la CPI de poursuivre l'Union européenne et ses États membres pour crimes contre l'humanité en raison de la mort de milliers de migrants qui ont péri en Méditerranée en cherchant à fuir la Libye. Le franco-espagnol Juan Branco et l'avocat israélien Omer Schatz ont transmis une plainte de 245 pages à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Depuis 2014, plus de 12 000 personnes sont mortes en Méditerranée en tentant de rallier l'Europe depuis la Libye.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est arrivé au Royaume-Uni. Il a été accueilli à Buckingham Palace au premier jour de sa visite d'État de 3 jours. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Il est prévu un déjeuner avec la reine Elisabeth II, prendre un thé avec le prince de Galles et son épouse, puis un dîner d'État. Avant son atterrissage, le président américain a qualifié le maire de Londres, Sadiq Khan, qui avait critiqué sa venue, de loser total. M. Khan a estimé que le Royaume-Uni a tort de dérouler le tapis rouge à Donald Trump. Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a boudé le banquet. Le président américain va rencontrer Theresa May, premier ministre sur le départ, dont il a critiqué la manière de mener les négociations avec Bruxelles sur le Brexit. Il a recommandé à son futur successeur de quitter l'Union européenne sans accord. Jeremy Corbyn a qualifié les commentaires de Donald Trump d'ingérence inacceptable. La relation est mise à rude épreuve par plusieurs dossiers, dont l'Iran. Le Royaume-Uni défend l'accord nucléaire remis en cause par la Maison-Blanche. Washington fait aussi pression sur Londres pour isoler la compagnie chinoise Huawei. La fin de la visite présidentielle sera centrée sur le 65e anniversaire du débarquement mercredi, en présence de la reine et du président français Emmanuel Macron. Donald Trump fera ensuite un passage en Irlande avant de se rendre le 6 juin en Normandie pour les commémorations organisées par la France.
Et puis le président iranien Hassan Rouhani a estimé qu'il revenait aux États-Unis d'adopter un comportement normal avant tout dialogue. La partie qui a quitté la table des négociations, la partie qui a foulé aux pieds le pacte, doit revenir à un comportement normal, a-t-il souligné dans un discours retransmis par la télévision d'État. Le secrétaire d'État américain avait laissé entendre que Washington est prêt au dialogue sans condition avec Téhéran. L'accord international sur le nucléaire iranien avait été signé en en 2015. Les États-Unis l'ont dénoncé en 2018, rétablissant du même coup une batterie de sanctions économiques contre l'Iran.
Les 11 Français et le Tunisien, jugés depuis une semaine en Irak après avoir été transférés de Syrie, ont été condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique. Ces jugements de première instance sont susceptibles d'appel sous 30 jours.
Et puis quelques 800 femmes et enfants syriens ont commencé ce lundi à quitter le camp des déplacés d'Al-Hol dans le nord-est de la Syrie. Ils doivent être acheminés dans les régions de Raqqa et Tabqa dans le nord syrien. Il s'agit de la première opération du genre menée par les autorités semi-autochtones kurdes pour le camp d'Al, où se trouvent près de 74 000 personnes selon l'ONU.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Depuis le 1er juin, les autorités ghanéennes ont interdit l'exportation du poivron, de l'aubergine, de l'éponge végétale et de tous les légumes à feuilles sur le marché international pour une durée indéterminée. Le Ghana explique sa décision par le souci de se conformer aux nouvelles directives de l'Union européenne en matière de gestion des organismes nuisibles sur les légumes. La Banque centrale du Kenya a dévoilé hier de nouveaux billets de banque pour lutter contre la fraude. Ces billets sont ornés de symboles représentatifs du pays comme les éléphants et les léopards et non plus d'anciens présidents. Ils ont des caractéristiques qui permettront aux malvoyants de les utiliser. Les anciens billets de 1000 shillings seront retirés avant le 1er octobre. Pour terminer, les prêts étrangers que le Zimbabwe a contractés en utilisant des minéraux comme garantie pourraient compliquer ses négociations avec les créanciers étrangers en vue de restructurer sa dette de 8,8 milliards de dollars, a annoncé le FMI. Ces arriérés de 2,6 milliards de dollars vis-à-vis de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement l'empêchent d'accéder à de nouveaux fonds de prêteurs multilatéraux.
Et nous passons directement à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
D'abord en Afrique, la Fédération marocaine de football veut faire rejouer la finale retour de la Ligue des Champions.
Oui, évoquant les événements de vendredi dernier qui n'ont pas permis à la rencontre Espérance de Tunis Wydad Athletic Club de Casablanca d'aller jusqu'au bout, la Fédération royale marocaine a fait savoir qu'elle va introduire une demande dans ce sens lors de la réunion du comité exécutif d'urgence de la CAF prévue demain. Une rencontre au cours de laquelle le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Legdia, demandera que le match soit rejoué sur terrain neutre, d'après le site Aridia. Mais vu que le trophée a déjà été donné à l'Espérance de Tunis, pas sûr que la démarche de l'instance marocaine aboutisse. Au contraire, beaucoup s'attendent plutôt à voir la CAF sanctionner le WAC.
Fabrice Nsakala, forfait pour la CAN 2019.
Malheureusement, convoqué par Florent Ibengue, le léopard de la RDC ne disputera pas la phase finale le mois prochain en Égypte. Fabrice Nsakala est diminué physiquement et va devoir observer quelques semaines de repos avant de reprendre en Angers avec son club. Il s'est blessé lors de la rencontre de la dernière journée du championnat turc entre son club Alanyaspor et Istanbul Başakşehir. Selon le médecin du club, le latéral serait indisponible pour 3 à 4 semaines. L'intéressé en a avisé son sélectionneur et ne sera pas du voyage pour le pays des pharaons.
Et Michel Platini tacle le président de la FIFA.
Il n'a aucune légitimité, il n'est pas crédible comme président de la FIFA, a déclaré l'ex-président de l'UEFA à Gianni Infantino, président de la FIFA. Michel Platini a été suspendu par la FIFA jusqu'en octobre 2019 pour violation du code d'éthique pour avoir reçu 1,8 million d'euros de la part de l'ex-président de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, en paiement d'un travail de conseiller sans contrat écrit. Il a ainsi été privé de candidature à la présidence de la FIFA et c'est finalement Infantino, son numéro 2 à l'UEFA, qui a été élu à la tête du football mondial en février 2016.
Platoche n'est pas donc disparu de la scène. Finale NBA, Golden State se retrouve face à Toronto.
Et oui, les Warriors ont retrouvé leur basket pour renverser les Raptors 109 à 104 et égaliser à une victoire partout. Toronto avait pris Golden State à son propre jeu jeudi. En ouverture de la finale, il avait dominé 118 à 109 avec sa vitesse d'exécution et sa défense étouffante. Stephen Curry et ses coéquipiers ont réagi avec la manière. Lors du match numéro 2, la rencontre a été suivie en tribune par l'ancien président Barack Obama. Les deux prochains matchs auront lieu mercredi et vendredi dans la salle des Warriors à l'Oracle Arena.
C'est C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon et Eric Manirakiza en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Et on commence par le Soudan où un comité de médecins, la dispersion aujourd'hui du sit-in des manifestants devant le quartier général de l'armée à Khartoum a fait au moins 13 morts. C'est ce que dit ce comité de médecins. Et le conseil militaire a pris le pouvoir après le renversement du président Omar el-Béchir. Les manifestants réclament toujours le transfert du pouvoir aux civils. Qu'est-ce qui risque de se passer dans ce pays ? Idriss Fall a joint Roland Marchand à Paris.
Il va falloir mesurer plusieurs paramètres. Le premier, c'est savoir si on en reste là ou si les anciens manifestants se regroupent pendant les fêtes de l'Eid ou juste après pour essayer de récupérer cet espace. Il faudra également voir dans quelle mesure cette répression, qui a quand même fait 9 morts au moins, va se poursuivre au-delà de cet endroit symbolique. Et dans ce cas-là, quelle sera l'attitude et des manifestants mais aussi de l'armée, puisque les forces qui interviennent alors actuelles sont les forces du général Emeti, le numéro 2 de la junte militaire. C'est donc une milice paramilitaire, beaucoup plus que l'armée elle-même, qui mène la répression. Donc il faut aussi mesurer dans quelle mesure l'armée, notamment ses échelons inférieurs et intermédiaires, sont prêts à accepter une répression dans le sang du mouvement social.
Pour le moment, l'armée n'est pas intervenue comme elle avait fait pour protéger les manifestants.
Elle est restée neutre et la question est de savoir si cette neutralité va perdurer ou au contraire, elle traduit le fait que l'armée joue Emeti, ce qui voudrait dire qu'à terme, Emeti serait sans doute potentiellement un dirigeant possible pour le Soudan, puisque le général Borin, qui guide la junte militaire, a déjà fait savoir que lui, il n'était pas très intéressé à rester dans ce poste. Alors évidemment, on peut jouer les timides, mais si lui partait, donc Emeti resterait, ce qui ne serait pas non plus le meilleur présage pour une transition souple et puis surtout pour un régime qui changerait de la période d'Omar el-Béchir.
Le mouvement dit de contestation aussi est très divisé apparemment. Il ne parle pas d'une seule et même voix.
Oui, c'est une des différences qui explique la passivité de l'armée. Des négociations ont été entreprises, alors chacun y est allé de ses tactiques pour diviser l'autre camp. Hein. Mais très clairement, ce qui est apparu, c'est que le mouvement social, vous aviez plusieurs composantes politiques. Vous avez des partis, notamment le parti Ouma, plutôt acquis à l'idée d'un compromis plus qu'historique avec les militaires, à rabaisser considérablement les revendications et travailler avec les militaires au mieux du possible. Et puis vous avez les gens, les militants et les groupes qui ont réussi à se créer dans le cadre de ce mouvement social qui a été quand même d'une ampleur inégalée et qui, eux, sont beaucoup plus radicaux politiquement, veulent réellement un démantèlement de l'État, enfin, du régime d'Omar el-Béchir, et évidemment un retour des militaires dans leurs casernes sans aucun rôle politique significatif. Donc, ces différences sont apparues aux yeux de tout le monde. Je pense que ça a divisé la population. C'est sans doute, on va réévaluer plus clairement ça dans les semaines qui viennent.
Roland Marchand, directeur de recherche au CNRS à Paris et spécialiste du Soudan.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Nous discuterons des similitudes et des différences entre les situations en Algérie et au Soudan. Après l'éviction d'Omar el-Béchir et d'Abdelaziz Bouteflika, les transitions se font attendre et les militaires sont toujours au pouvoir. Quelle solution pour chaque pays ? Que pensez-vous de l'intransigeance des manifestants ? Venez en discuter en direct ce soir sur VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À votre avis, 18h05, temps universel.
Jean-Pierre Bemba, l'un des leaders de la coalition Lamuka et le président du MLC, annonce son retour à Kinshasa le 23 juin. Mais avant lui, le 20 du même mois, Moïse Katumbi, un autre leader de la coalition, a mis fin à son exil pour rentrer en RDC. Idi Sango a joint à Kinshasa le secrétaire général adjoint du MLC, Fidèle Babala.
Je vous confirme que M. Bemba rentre le dimanche 23 juin à 10h par l'aéroport de Ndjili.
Et qu'est-ce qui est au programme?
Nous sommes en train de peaufiner les programmes au niveau du MLC dans un premier temps et ensuite nous allons faire approprier ce momentum politique par la Mouka. Donc nous allons intéresser aussi nos amis de la Mouka.
Ils disent sur son compte Twitter qu'il veut vite rentrer mais qu'il rentre pour combattre ensemble avec les autres pour l'unité du pays et faire progresser les pays. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ben, vous suivrez probablement le meeting qui va tenir à Kinshasa à son arrivée ou le point de presse pour qu'il puisse expliciter ses pensées contenues dans les Twitter.
Il rentre à Kinshasa le 23 juin, mais en même temps, M. Moïse Katumbi, qui est aussi l'un des leaders de la Mouka, qui dirige maintenant présentement la coalition, lui est annoncé dans la même ville pour le 20 juin. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait friction quelque part?
Non, pourquoi il y aurait friction? Nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes objectifs. Je pense que ça ferait faire bouillonner la marmite du pays. Donc je ne pense pas que ce soit antinomique.
Parce que certains parlent de lutte pour le positionnement et autres, surtout que M. Moïse Katumbi avait annoncé le 20 mai à son retour qu'il prendrait bien M. Martin Fayulu et M. Jean-Pierre Bemba pour les amener auprès de Monsieur Félix Tshisekedi, le président qui a été élu.
Je lui laisse la paternité de ses propos, je ne voudrais pas commenter ses propos.
Vous avez annoncé une conférence de presse pour un meeting, c'est cela?
Nous sommes en train de faire des réunions pour justement essayer de fixer chronologiquement les choses. Je ne sais pas si on commence par le meeting ou par le point de presse. Quand on aura fini les réunions préparatoires, on verra plus clair.
Et après, ça sera la tournée aussi à travers les pays?
Ça, je ne saurais pas l'affirmer maintenant. Il faudra attendre que les choses soient beaucoup plus claires.
Est-ce qu'un rapprochement est possible, parce que Moïse Katumbi en a parlé, avec le gouvernement ou le président de la République, par exemple? Le gouvernement n'est pas encore mis en place.
Nous partageons certaines valeurs, notamment un même pays. La politique est l'art du possible, donc je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. On verra bien l'articulation des choses.
Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du MLC à Kinshasa.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Zimbabwe, un nombre croissant d'entreprises refusent d'accepter la monnaie locale et ne prennent que des dollars américains ou leur équivalent sur le marché noir. À Harare, la capitale, certains ministères et entreprises ont même commencé à facturer en monnaie américaine. Cette situation arrive au moment où l'économie du Zimbabwe est en difficulté avec un manque criant de carburant. Reportage de Columbus Mavunga a rendu ici par Bagasikura.
Certaines entreprises du Zimbabwe ne supportent plus la dévaluation constante de la monnaie locale et ont commencé à faire des affaires en dollars américains. Une des raisons est que la monnaie locale, connue sous le nom de billet obligataire, n'est pas acceptée en dehors de ce pays d'Afrique australe, ce qui la rend inutile pour les entreprises qui ont besoin d'importer des marchandises. Pour Tonga et Madame Mbé, vendeurs des pièces détachées, le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa doit opter pour l'utilisation du dollar américain.
Pour ceux qui n'importent pas, il n'est pas aussi difficile de facturer en billets de banque comme c'est le cas pour nous qui importons. Si vous ne calculez pas correctement, vous ne pourrez pas vous réapprovisionner. Nous sommes vraiment dans des moments difficiles. Nous utilisons donc les taux du marché parallèle car nous allons y chercher des devises pour importer nos actions.
Le Zimbabwe a abandonné son dollar il y a plus de 10 ans lorsque l'hyperinflation l'a rendu inutile. Maintenant, les notes obligataires introduites il y a 2 ans se déprécient également. Le rand sud-africain et la livre sterling sont acceptables dans de nombreux commerces et services du pays, mais très difficiles à trouver. Même certains ministères et sociétés publiques telles que la Société nationale des chemins de fer ont commencé à exiger des paiements en dollars américains pour se protéger de la dépréciation des notes obligataires. Autre produit rare du Zimbabwe, le carburant. Le gouvernement continue de contrôler son prix, mais sa tâche a été rendue difficile par le fait que certaines entreprises ont commencé à exiger des paiements en dollars américains. Edinson Mazambani, responsable de l'autorité zimbabwéenne de régulation de l'énergie, affirme que seules sont autorisées à vendre en dollars les compagnies qui importent directement du carburant parce que la Banque des réserves du Zimbabwe verse des devises pour la plupart des autres importateurs de carburant du pays.
Nous avons besoin de documents. Si vous vous êtes procuré auprès de la banque de réserve et que vous ne parvenez pas à nous les fournir, nous prendrons les mesures nécessaires. Vous auriez enfreint à la loi. Nous allons donc prendre des mesures conformément aux lois en vigueur dans le secteur pétrolier.
Le gouvernement assure qu'il retire les licences aux stations-service négociées en dollars américains alors qu'elles étaient supposées utiliser la monnaie locale. Mais jusqu'à présent, cette politique n'a pas mis fin à la vente du carburant en dollars américains ni rendu le carburant plus disponible.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Distrait comme ces pensionnaires inconnus du grand public, unique dans son genre au Sénégal, le centre verbotonal participe à l'éducation des enfants atteints de déficiences auditives. Il leur permet de communiquer avec la société et leur donne toute leur autonomie. Les sourds muets par le centre verbotonal de Dakar, nous dit de Dakar justement notre correspondant Sedina Abagay.
Matinée de cours au centre verbotonal de Dakar, les élèves de la classe préparatoire se concentrent sur le cours de rééducation de cabine. Les appareils auditifs bien fixés aux oreilles, ces élèves sourds muets participent. Mustapha, 8 ans, répond aux questions de son maître David Natarang.
Comment t'appelles-tu?
Toi, ma, pa, ton pa.
Oui, papa.
Papa.
Papa. Oui, papa. À la maison.
Assis à côté d'un amplificateur, micro à la main, David, le rééducateur de cabine de ce centre, explique.
Je prends les enfants qui ont des difficultés à prononcer, à verbaliser certains mots ou bien des phrases, et je vais en aide pour les amener à s'exprimer d'une manière assez audible. Un enfant, au départ, qui ne savait pas articuler un problème et qui parvient à dire des phrases maintenant, c'est génial.
Génial, c'est ce que disent également les parents d'élèves qui, grâce au centre, parviennent à parler facilement avec leurs enfants sourds. Betty Gay montre toute sa satisfaction quant au progrès de son fils Fallou.
Avant, mon fils était complètement sourd et muet. Mais depuis qu'il a intégré ce centre, Fallou parle normalement. Il dit clairement « j'ai faim » ou « je veux telle ou telle chose ». Il parle presque comme les autres.
Aïssatou Camara, abandonnant le même sens, sa fille continue aujourd'hui ses études à l'école Saint-Julien-Emar. Elle fait la classe de CE1 et s'en sort plutôt bien.
Ma fille étudiait ici, mais elle a été transférée dans une autre école. Elle parle comme tous les autres élèves. Même sa maîtresse me dit qu'elle se fait facilement comprendre. Tout cela, c'est grâce à ce centre. Elle a de bonnes notes d'ailleurs. Elle est classée 9e lors de la dernière composition.
Situé au quartier Gueltapé de Dakar, le centre verbotonal a ouvert ses portes en 1980. La directrice Fatou Matosumarello revient sur la spécificité de l'établissement.
C'est un centre qui accueille des enfants déficients auditifs, communément appelés sourds-muets. Comme son nom l'indique, c'est un centre spécialisé. Donc, c'est des enfants déficients auditifs qui sont admis dans ce centre-là. Pas tous, évidemment, dans un établissement public. Donc, nous prenons en charge les enfants dans la mesure de nos possibilités. Les enfants sont testés et à l'issue de ce test, tous ceux qui présentent des potentialités pour la méthode sont recrutés. Bon, c'est une méthode oraliste appelée méthode verbotonal. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de reconstituer un peu le processus d'acquisition du langage chez l'enfant. Donc, il y a une phase de démutisation que nous faisons au préscolaire pour permettre à l'enfant de retrouver du langage et de poursuivre un cursus scolaire.
Ils sont aujourd'hui une cinquantaine d'élèves qui, au départ, ne pouvaient ni entendre ni parler, mais actuellement, ils parviennent tant bien que mal à communiquer avec les autres. Ils partagent tous le même objectif, participer en toute égalité au développement de leur pays. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Joselle Morissin assurait la mise en onde. À la console, Audrius Rigus, John Lindon et Eric Manilakiza étaient en votre compagnie. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui l'a préparée. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA.
Afrique, les infos.